Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawal El Amouchi. Au sommaire de cette édition, les chaleurs caniculaires continuent de gagner du terrain et s'étendent à quasiment toute la France, tandis que le gouvernement tente de trouver des solutions à la sécheresse qui frappe le pays. Dans les Deux-Sèvres, trois corps ont été retrouvés dans les décombres d'une maison d'un village ravagé par un incendie qui s'est déclaré dans un champ voisin. En Cisjordanie occupée, les violences commises par les colons israéliens atteignent un rythme record. On fait le point dans cette édition. Nous l'avons évoqué dans les titres, une nouvelle vague de chaleur extrême. La canicule continue de gagner du terrain, s'étendant à quasiment toute la France. Première conséquence de ces fortes chaleurs, c'est la sécheresse dramatique qui frappe le pays. Les précisions avec vous, Inès Gilles.
Et oui, Nawal, c'est une des principales conséquences du thermomètre en surchauffe et du manque de pluie. L'accès à l'eau est de plus en plus menacé. Selon Météo France, après plusieurs vagues de chaleur inédites dans le pays, la sécheresse des sols a atteint des niveaux records début août. Près des deux tiers des nappes phréatiques, principales réserves d'eau, présentent des niveaux sous les normales. Et la situation des petits cours d'eau est la plus critique jamais enregistrée à cette période de l'année, selon l'Office français de la biodiversité. D'après les données de Vigio, une plateforme lancée par le gouvernement pour informer sur la sécheresse, cette situation a des conséquences directes dans les foyers, car les mesures de restriction sur l'eau potable concernent 62 millions de personnes, soit 94% de la population métropolitaine. Face à la crise hydrique, l'exécutif est sur le qui-vive. Selon le gouvernement, je cite, « les effets du changement climatique continuent d'accentuer les tensions autour de la ressource en eau ». Une réunion de crise est donc prévue ce mercredi. Le ministère de la Transition écologique réunit le comité d'anticipation et de suivi hydrologique, ainsi que les préfectures de région. Au menu, un état des lieux de la sécheresse et de ses conséquences sur l'agriculture et la biodiversité, ainsi qu'un partage de retours d'expérience sur les mesures permettant de renforcer l'anticipation et la résilience des territoires face aux tensions autour de l'eau. Ce manque d'eau, il favorise aussi les feux de forêt. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a donc missionné 4 députés et 3 sénateurs pour proposer de nouvelles mesures contre les feux afin d'alimenter un futur projet de loi de modernisation de la sécurité civile.
Merci beaucoup Inès Gilles pour toutes ces précisions. Et dans les Deux-Sèvres, trois corps ont été retrouvés dans les décombres d'une maison d'un village ravagé par un incendie qui s'est déclenché dans un champ voisin. Dans l'actualité, au Moyen-Orient maintenant, Cisjordanie occupée, les violences commises par les colons israéliens atteignent un rythme record, avec en moyenne 6 attaques par jour faisant des victimes ou causant des dommages. C'est l'ONU qui l'affirme, des colons qui bénéficient du soutien du gouvernement israélien alors que la colonisation s'intensifie à un rythme fou. Le point toujours avec vous Inès Gilles.
Et oui, les attaques contre des civils palestiniens se multiplient. Le 20 juillet, 2 Palestiniens sont tués par des soldats israéliens après avoir lancé des pierres. 2 jours plus tôt, c'est un adolescent palestinien, Fadi Hamdallah Al-Nassan, jeune footballeur, qui a été tué par l'armée lors d'une attaque de colons. Dans les zones les plus reculées, les communautés palestiniennes sont régulièrement déplacées de force pour laisser la place à l'expansion coloniale. Et puis, il y a ces violences plus silencieuses liées aux restrictions de mouvement. Fin juillet, une Palestinienne de 28 ans, enceinte de 6 mois, souffrant d'une grave hémorragie, a été retenue pendant plus de 30 minutes au checkpoint d'Awarta par l'armée israélienne alors qu'elle se rendait à l'hôpital. Elle a perdu son bébé. Et ce ne sont pas seulement des actes isolés de colons radicaux, mais des violences qui s'inscrivent dans une politique étatique. C'est ce qu'affirment La Paix Maintenant et Kerem Navot, deux ONG israéliennes, dans un rapport publié en juillet. Elles dénoncent une annexion de facto de la Cisjordanie. Le rapport rassemble les différentes actions du gouvernement, construction de colonies, autorisation d'avant-poste ou déclaration de propriété foncière par l'État, et montre qu'elles relèvent d'une même politique. Le principal penseur de cette annexion progressive est Bezalel Smotrich, ministre des Finances d'extrême droite, également chargé des colonies au ministère de la Défense. Avec Orit Strom, Strauch, ministre des colonies et figure de l'extrême droite, il défend fermement les intérêts des colons. Et au bout de la chaîne, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, qui a mis la police israélienne au service de son idéologie extrême. Lorsque les Palestiniens portent plainte pour des violences commises par des colons ou par l'armée, les enquêtes ont peu de chances d'aboutir. Depuis l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, les administrations de l'occupation israélienne interviennent ainsi de plus en plus souvent au nom des intérêts des colons.
Et les violences de colons contre les populations palestiniennes s'intensifient dans un climat d'impunité, déplore Djed Armadi-Kari, le représentant de la France à l'ONU.
Les violences de colons contre les populations palestiniennes s'intensifient dans un climat d'impunité. Et cela sans réponse de la part des forces armées israéliennes. Ces actes de terreur sont inacceptables. Nous condamnons le ciblage croissant des femmes et des enfants et les restrictions de mouvement et d'accès aux soins imposées par les forces israéliennes qui sont contraires au droit international. Les attaques terroristes visant des civils israéliens doivent également cesser. Deuxièmement, la colonisation israélienne s'accélère dans un mépris total du droit international. Son expansion continue, à l'image du projet E1, la légalisation d'avant-postes, les confiscations de terres, et les démolitions de structures palestiniennes contreviennent à la résolution 2334 de ce Conseil. La France s'oppose fermement à la dynamique engagée par Israël d'une forme d'annexion de facto et de déplacement forcé. La France et ses partenaires de l'Union européenne ont pris des sanctions contre les entités et individus responsables et prendront des mesures supplémentaires, y compris des sanctions et des mesures commerciales, pour y faire face.
Djed Armadi-Kari, représentant de la France à l'ONU. On reste au Moyen-Orient. Le Parlement libanais a voté aujourd'hui une loi d'amnistie générale devant profiter à des milliers de prisonniers, de personnes recherchées par la justice. Une première depuis la fin de la guerre civile en 1991. Les États-Unis, pays médiateur, parraineront une nouvelle série de pourparlers entre Israël et le Liban début septembre à Rome, selon un responsable du département d'État, se disant satisfait de la façon dont les choses évoluent. Et le ministre pakistanais de l'Intérieur, dont le pays joue un rôle médiateur dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis, s'est rendu cette semaine à Téhéran pour tenter de relancer des négociations qui patinent. En Afghanistan, 5 ans après le retour des talibans au pouvoir, l'UNESCO tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Près de 2,4 millions de jeunes filles sont aujourd'hui privées d'enseignement secondaire dans le pays. L'Agence des Nations Unies dénonce une discrimination systématique et appelle la communauté internationale à ne pas détourner le regard. Les précisions avec Nadia Bencher.
Le constat est alarmant. Selon un nouveau rapport de l'UNESCO, environ 2,4 millions de jeunes afghanes sont privés d'enseignement secondaire, soit 200 000 de plus que l'an dernier. Si cette interdiction est maintenue, près de 4 millions de filles pourraient être exclues de l'école d'ici 2030. Pour l'Organisation des Nations Unies, ces restrictions effacent 2 décennies de progrès. En 2021, près d'un million de jeunes filles étaient scolarisées dans le secondaire contre un nombre très limité 20 ans plus tôt. L'UNESCO rappelle que l'Afghanistan est aujourd'hui le seul pays au monde où l'enseignement secondaire et supérieur est interdit aux filles et aux femmes. Elle réclame le rétablissement immédiat et sans condition de leur droit à l'éducation et dénonce des discriminations qui touchent aussi leur accès au travail et leur liberté de circulation. La crise dépasse le seul sort des jeunes filles. Plus de la moitié des enfants en âge d'aller à l'école primaire sont déscolarisés et plus de 90% des enfants de 10 ans ne savent pas lire un texte simple. Le système éducatif est également fragilisé par le manque d'infrastructures, les catastrophes naturelles et le retour massif de millions d'Afghans depuis 2023. Selon l'UNESCO, le maintien de ces interdictions pourrait coûter à l'Afghanistan près de 9,6 milliards de dollars de pertes de revenus cumulé d'ici 2066.
Et dans le reste de l'actualité internationale, des frappes ukrainiennes ont tué 2 personnes, dont un enfant de 8 ans, dans la région russe méridionale de Krasnodar, tandis que des attaques russes ont fait 2 morts et des blessés en Ukraine, selon les autorités des 2 pays. Et le président russe Vladimir Poutine a menacé aujourd'hui de saisir des navires occidentaux en mesure de représailles à l'arraisonnement par des pays européens de bateaux soupçonnés d'appartenir à la flotte fantôme russe. L'Union européenne a annoncé débloquer 3 millions d'euros pour venir en aide à la Colombie, frappée par un puissant séisme. Le dernier bilan est de 216 morts. Les recherches de survivants se poursuivent. 11 jeunes Français sont détenus depuis le début de l'été en Thaïlande après avoir été arrêtés dans un aéroport avec plusieurs kilos de cannabis dans leur bagage, selon l'agence France Presse. Un piège suite à des annonces sur Snapchat, selon les témoignages de proches. Et enfin, c'est le jour J, 17 ans après l'éclipse solaire totale du 11 août 1999. Le Soleil a une nouvelle fois rendez-vous avec la Lune et ce spectacle astronomique visible en France a lieu ce soir aux alentours de 19h sur l'ensemble du pays. L'éclipse ne sera que partielle. En revanche, elle sera quasiment totale au Pays Basque ainsi que dans le nord de l'Espagne. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.